Alors écoutez, c'est un débat qui a cours présentement en Grande-Bretagne. Il y a une avocate qui veut interdire la Belle au bois dormant dans les livres scolaires parce que elle dit, écoutez, la Belle, elle dormait, puis le prince est arrivé, puis il l'a embrassée, mais comme elle dormait, elle n'a pas donné son consentement. Comprenez-vous? Puis là, ben, il faut maintenant enseigner que sans oui, c'est non, là, tu sais? Puis les petites filles, puis de façon générale, les petits gars aussi, là, je veux dire, c'est le consentement. Le consentement est obligatoire, on s'entend là-dessus, là. Mais là, je sais pas, là, est-ce que c'est pas en train de déraper un petit peu, là, quand on commence à dire qu'on va, je sais pas, là, on va arrêter de raconter certaines belles histoires avec lesquelles on a grandi parce que ça pourrait donner l'idée que c'est acceptable d'embrasser une petite fille pendant quatre... Je sais pas, là, moi, il me semble qu'on est en train de virer sur le top. Mais regarde, c'est peut-être juste moi. En tout cas, on va aller rejoindre Diane Guilbeault. Elle est la présidente du groupe pour les droits des femmes du Québec. On réfléchit à ces enjeux-là. Bonjour, Diane Guilbeault.
Bonjour.
Bon, là, moi, je suis un gars, là. Fait que, tu sais, peut-être que je suis dans le champ, dans le fond. Mais il me semble que ça commence à aller loin un petit peu. Vous trouvez pas, vous?
Ben, écoutez, la culture, ça doit servir à apprendre. Et puis, vous donniez l'exemple, le consentement était absent, c'est vrai, mais alors, racontons l'histoire aux enfants en leur expliquant pourquoi c'est inacceptable de nos jours et pourquoi on doit maintenant parler de consentement. C'est une excellente introduction à la notion de consentement. Moi, ça m'inquiète toujours quand je vois des solutions à la stalinienne comme ça, là où on efface les photos, on efface ce qui est pas beau. La littérature est tellement sexiste, il resterait plus grand-chose si on commence à éliminer les livres sexistes et on n'aura plus rien. Alors, ne faisons pas comme les talibans qui avaient démoli, vous savez, les bouddhas de Bamiyan parce que c'était pas conforme aux dogmes des islamistes. Moi, je pense que la culture, c'est toujours une façon d'apprendre et on apprend des choses du passé. Puis, si on les bannit à l'école, les enfants vont le retrouver ailleurs. De toute façon, c'est une littérature universelle. Alors, aussi bien s'en servir, justement, d'un point de vue pédagogique, en expliquant à nos enfants que ces contes-là, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, toutes ces histoires-là, qui sont des contes qui sont nés dans un contexte d'une époque particulière, qui sont des fantasmes, des mythes, etc., servons-nous-en pédagogiquement. Alors, moi, je pense que ça s'enseigne, ça s'utilise et on n'élimine pas notre histoire, notre culture. C'est, à mon avis, c'est un outil extrêmement primitif et surtout inefficace.
Ah, ça me fait du bien de vous entendre. Continuez encore un petit peu. Non, mais sérieux, c'est parce que là...
Ben, écoutez, le bon sens, les féministes, moi, quand j'entends ça, je suis toujours un petit peu nerveuse, là, parce que je me dis, mon Dieu, la pureté dogmatique, la pureté... Vous avez le temps de l'Inquisition, j'ai toujours l'impression que ces temps-ci, quand on n'est pas dans la pureté, on est vraiment à honnir. Et c'est extrêmement préoccupant, hein, parce que... on a la faculté de jugement, les parents ont la faculté de jugement, les enseignants ont la faculté de jugement. Alors, pourquoi ne pas prendre cette histoire-là que tout le monde connaît, probablement tout le monde a ça dans sa bibliothèque, et justement faire un comparatif de nos jours, le phénomène MeToo, il y a peut-être des garçons qui pensent que c'est correct d'embrasser la petite pendant qu'elle dort ou qu'elle n'a pas dit. Expliquons-le aux garçons et aux filles, maintenant, ensemble, avec des exemples, puis en partant de choses qu'ils connaissent très bien. Je ne pense pas que ce soit faire injure aux droits des femmes de dire que cette littérature existe. On ne va pas l'effacer. C'est quand même c'est comme les grands mythes. À la limite, c'est comme les religions. On a des mythes. On ne va pas effacer la Bible parce qu'on n'aime pas ce qu'il y a dedans. Alors, donc, servons-nous de ce qu'il y a avec un regard critique et pédagogique.
Mais j'aime beaucoup quand vous dites, vous faites la comparaison avec les talibans. Puis tu sais, l'idée d'effacer le passé parce qu'il ne correspond pas à nos croyances d'aujourd'hui, à nos convictions d'aujourd'hui, à nos valeurs d'aujourd'hui. Puis vous dites, vous rappelez aussi que les parents ont un rôle à jouer là-dedans. C'est ça qui me fatigue un peu dans le débat actuel, c'est que c'est comme si on voulait imposer une norme universelle de laquelle on ne peut pas sortir. Parce que si tu sors de la norme, là, t'es un pas bon. T'es à mettre sur le banc de punition. Puis, oui, on s'entend, là, ils peuvent... Il y a une espèce de... Moi, je crains cette espèce de chape de plomb, là, qui ont... la rectitude est en train de se rigidifier. Je ne sais pas si ça se dit en français, là, mais c'est en train de devenir extrêmement fort. Tu es condamné avant même d'avoir pris la parole.
Ah, si on n'est pas dans le bon camp, c'est sûr qu'on est condamné, surtout maintenant avec la vitesse de l'Internet, des réseaux sociaux, où tout le monde peut se poser en censeur. Mais il y a effectivement, je dirais quand même plus que dans les années 80 ou depuis les années 68, 70, là, l'explosion des idées, puis ça allait dans toutes les directions. Bon, c'est sûr que les conservateurs de l'âge de nos grands-parents qui étaient nés dans les années 20, 1930, on se moquait de leurs opinions, mais elles avaient quand même droit de citer ces opinions. Mais de nos jours, il y a vraiment un dogme, c'est comme dogmatique. Tu crois ou tu meurs. J'exagère, là, mais il y a vraiment une... Il y a la bonne version, il y a ce qu'on doit penser et les autres.
Bon.
Et les autres qui ne pensent pas comme il faut.
Oh, bon, puis eux autres sont condamnés. Regardez, il y a plein de courriels qui rentrent pendant qu'on se parle. Diane Guilbeault, François, par exemple, qui dit « La belle au bois dormant », il dit « Que dire d'Ali Baba et les 40 voleurs ?»
Il dit, oui, voilà.
Il dit c'est sexiste puis c'est anti-homme cette affaire-là. Là.
Ouais, c'est
bon,
ça.
Monique a dit la belle au bois dormant. Elle dit c'est la fée, marraine qui est le problème. C'est elle qui a dit qu'il fallait le baiser d'un beau prince pour la réveiller.
Donc c'est vrai, j'avais oublié. Hein?
Le problème, c'est la fée marraine. C'est pas le prince, Simonette.
C'est vraiment. Non. Moi, je pense que là on est vraiment dans du très, très, très superficiel. Ouais. Alors que la question du consentement et des agressions sexuelles, c'est une question vraiment sérieuse.
Ouais.
Mais on fait pas ça en éliminant les livres de la bibliothèque pour pas que nos enfants les voient. On fait ça en faisant des discussions honnêtes, franches, complètes. Avec des garçons, avec des filles, avec des bons mots, avec des bons exemples. Et c'est ça qui va faire changer les choses. Ça ne va pas faire diminuer les MeToo et les agressions de faire disparaître des livres de la bibliothèque. Moi je ne crois pas ça.
Bon, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, puis ça aussi, c'est bien délicat, c'est la nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui est née homme. Hein, avant, donc elle est transgenre, hein? C'est comme ça qu'on dit ça.
C'est ça.
Bon. Vous, est-ce que ça vous fatigue qu'une transgenre née homme, devenue femme, préside la Fédération des femmes du Québec?
Alors, d'abord, j'aimerais préciser quand même que le changement de la loi en 2013, c'était le changement du mention de sexe. C'est pas un changement de sexe. Je veux que ça soit clair. On peut pas changer la date de naissance sur nos papiers d'état civil, mais on peut changer la mention de sexe, mais ça change pas le sexe. Ça, c'est la première chose.
La mention de sexe. Donc, à côté de ton nom, au lieu que ce soit le petit M, ça peut être le petit F.
Oui. Et maintenant, avant, ça prenait une opération, puis l'opération, elle était seulement après un cheminement, une évaluation, etc., par des médecins, par des psys, etc. Maintenant, depuis la nouvelle loi, les gens, mettons un homme, se présente à l'état civil et dit « Je suis une femme ». Et tout ce qu'il a à faire, c'est d'avoir quelqu'un avec lui qui va le corroborer qu'il se sent femme depuis, ils se connaissent depuis un an et que c'est vrai que son copain se sent femme. Et c'est fini. Voilà, c'est fait.
Okay.
Donc, il n'y a aucune exigence. Donc, actuellement, c'est l'autodétermination. Et ça, c'est passé aussi, faut le voir dans la confusion de gender en anglais, là, parce que les anglophones n'aiment pas ça dire le mot sexe. Parce que ça fait trop rapport aux relations sexuelles, peut-être, je ne sais pas. Mais de plus en plus, dans les 20 dernières années, le mot gender est devenu comme le synonyme de sexe. Alors, en français, nous, on dit qu'on peut changer de genre. Le genre, c'est les stéréotypes qui sont associés aux hommes, aux femmes. Les hommes, ils aiment les G.I. Joe, puis les femmes aiment la couture, puis le tricot, puis parler, etc. Ça s'appelle le genre, les stéréotypes de genre. Mais le sexe, c'est biologique. C'est vraiment biologique. Alors, évidemment, de voir qu'une personne née homme se met à la tête d'une organisation qui est supposée représenter les femmes, les besoins des femmes, ben, on pense que c'est certainement pas la personne la plus appropriée. Ça n'enlève pas ses qualités. Gabrielle Bouchard a fait beaucoup de travail au Centre de lutte contre l'oppression des genres, mais sa perception, son vécu, son histoire est absolument pas équivalente à celle que les femmes vivent, parce que les femmes vivent dès la naissance des discriminations en raison de leur sexe. Vous savez, il y a des enfants en Inde, entre autres, mais même au Canada, qui ne naissent pas parce qu'à l'échographie, on a vu que ça serait une fille.
Bien sûr.
Et donc, il y a des avortements sélectifs. Donc,
mais il y en a au Québec. Il y en a au Québec.
Il y en a au Québec. Exactement. Oui. Je sais. Alors, donc, avant même la naissance, le sexe des femmes est un facteur de discrimination. C'est le sexe des femmes qui fait que les femmes sont violées. C'est pas leur genre. C'est le sexe des femmes qui font qu'elles vont avoir des avortements ou des avortements bâclés. C'est le sexe des femmes qui vont faire que les femmes vont accoucher. C'est un acte biologique. Les femmes sont pas juste leur biologie, mais cette biologie va tracer une grande partie de leur destin. Et la lutte des féministes, les dernières années, c'était de dire, ne laissons pas ni les hommes ni les femmes emprisonnés dans les stéréotypes de genre. Une femme, même si elle est née femme, elle peut être juge, elle peut travailler dans la construction. Et un garçon qui est né garçon, il peut décider d'être danseur de ballet, d'être peintre ou de conduire des camions. Ne fermons pas nos horizons à cause des stéréotypes. Mais ça n'empêche pas l'existence des différences entre les deux sexes. Et là, avec le discours, l'idéologie des trans, on vient brouiller tout ça.
Pourquoi?
Et on nous
pourquoi?
Dit que les sexes... Écoutez, le pourquoi, je ne sais pas.
Non, mais c'est quoi qu'ils disent? Continuez,
je vous écoute. Les sexes n'existent plus. Et le genre, un petit garçon qui aime jouer à la poupée, on lui dit maintenant qu'il n'est plus un petit garçon, en fait, c'est parce qu'il est une fille qu'il aime jouer à la poupée. Et donc, il est né dans le mauvais corps. C'est épouvantable de dire ça à des enfants, que alors qu'autrefois, on se battait il n'y a pas si longtemps, de dire au petit garçon, ben joue avec la poupée, c'est tout. Et puis, il y a des études qui ont montré que les enfants, surtout les petits garçons qui étaient très attirés par les activités dites de filles, devenaient des qui donc présentaient ce qu'on appelle une dysphorie du genre. Ils sont pas à l'aise avec leur corps par rapport à ce qu'ils ont dans leur tête. Et on s'est rendu compte que ces enfants-là souvent deviennent des adultes gays, puis ils sont très corrects avec leur corps.
Ben oui,
ça c'était avant. Mais maintenant, on dit non, c'est parce que t'es né dans le mauvais corps. Et puis, tranquillement, pas vite, on va les amener à prendre des hormones, on va les amener à prendre des bloqueurs de croissance, on va les amener à transformer leur corps pour qu'ils correspondent à l'image qu'ils ont qu'une fille est. Puis, on va lui dire, tu es une fille. C'est très réducteur, et des garçons et des femmes, c'est très réducteur des femmes aussi de dire, parce que la ministre de la Justice, parce qu'au Canada, ils ont passé un projet de loi équivalent qui s'appelle le projet de loi C-16, là, où on a inclus l'identité de genre et l'expression de genre. La ministre de la Justice a dit devant ses compères que c'était une question d'apparence et que c'était une question de croyance. Et que si une personne se sent femme, ben elle est une femme.
Ben,
c'est ça la difficulté. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'un homme se promène en jupe en robe. J'aimerais ça beaucoup, en fait. Ça serait de la variété. Ça serait du progrès.
Ça serait de la diversité.
Là, c'est pas ça. Ça serait de la diversité. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'un homme qui se présente comme ça, habillé en femme, avec une expression de genre féminin, c'est une femme. Alors, ça pose problème pour les femmes. Ça pose problème dans les prisons. Là, actuellement, il y a des prisonniers qui sont en prison pour agression sexuelle. Avec la loi C-16, ils peuvent demander un transfert dans une prison de femmes parce qu'ils se sentent femmes.
Mais c'est ridicule.
Ben c'est ça la loi qui a été votée. Et nous, on avait demandé tant au gouvernement du Québec qu'au gouvernement canadien de faire une étude différenciée selon les sexes pour voir les impacts sur les femmes. Et au Québec, ils l'ont refusée. Et à Ottawa, elle a été faite, mais on nous refuse, on nous dit qu'elle est confidentielle.
Diane, c'est fascinant. Puis on va reprendre ça, mais là, ils me disent, là, arrête, faut s'en aller à la pause parce qu'il y a Gildo qui s'en vient après. Je me suis laissé aller un peu, mais c'était vraiment très intéressant. Et savez-vous quoi? C'est sûr qu'on va en reparler. Diane Guilbeault, je rappelle que vous êtes la présidente du groupe pour les droits des femmes du Québec. Merci.
C'est rien. Au revoir.